Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième et dernière partie du compte-rendu de la fête du livre d'Anneau qui s'est tenue le 23 juillet dernier. Un salon d'importance en Saône-et-Loire, plus d'un quart de siècle d'existence, et un événement organisé par les bénévoles de l'association Livres en Pâture, désormais présidée par Alice Margoton qui a succédé à Gérard Gauthier. Au sommaire de notre rendez-vous littéraire, des reportages, bien évidemment, qui vous permettront de vous dépayser un peu, notamment avec le photographe Laurent Janin, pour un récit de voyage en Équateur. Vous en saurez un peu plus sur une jeune société savante, puisqu'elle a été créée en 1967 à l'initiative de Joseph Pasquet et présidée aujourd'hui par Jean-Loup Flouest, que vous entendrez à notre micro. Et puis nous reviendrons sur le nouveau livre de Didi Cornaille, un roman historique paru il y a quelques mois aux éditions Lire à l'Est. Vous l'entendrez nous présenter l'intrigue de son dernier texte. Ouvrons cette émission, si vous le voulez bien, avec Ignacio Catalan, rencontré lors de la fête du livre d'Anneau le 23 juillet dernier. Ignacio Catalan, qui a fait paraître de nombreux romans aux éditions de l'Armançon, notamment Le Chant des Pierres, La Lumière d'Isiatis. Et puis, il va, dans le reportage que vous allez découvrir, nous présenter son dernier roman paru en 2019 et intitulé « Bonaventure, Marguerite et quelques auteurs » paru aux éditions du Vignoble. Bonaventure, c'est Bonaventure des Périers, poète du XVe siècle, ami de Clément Marot et né en Côte d'Or, tout comme Ignacio Catalan à Arnay-le-Duc. J'ai donc demandé à Ignacio Catalan, finalement, quel lien il entretenait avec le Morvan et la Bourgogne. Ignacio Catalan, enregistré le 23 juillet dernier lors de la fête du livre d'Anneau.
C'est un peu compliqué ce que vous me demandez là. En fait, je peux pas dire que je suis morvandiau parce que je suis natif d'Arnay-le-Duc en Côte d'Or, donc c'est mi-Aussois, mi-Morvan. On n'a jamais su exactement départager les régions. Enfin bon, je suis un petit peu morvandiau, disons, voilà.
Alors, Ignacio Catalan, nous vous avons
d'ailleurs,
connu...
D'ailleurs, mon nom vous dit tout de suite que je suis morvandiau.
Ah oui, tout ouais. À fait. Il y a quelques années, vous avez fait paraître un grand nombre de romans dans une belle maison d'édition, les éditions de l'Armançon, malheureusement disparues, qui avait été créée par Gérard Gauthier. Et vous étiez passé d'ailleurs dans le wagon livre. Nous avions dû parler du Chant des Pierres et puis de La Lumière d'Isiatis.
Oui.
Et puis, vous continuez à écrire, Ignacio, puisque vous vivez entre Paris et donc Arnay-le-Duc. Et alors, comment fait-on quand son éditeur historique vous a longtemps mis en valeur et que malheureusement, il est obligé de mettre la clé sous le paillasson?
Alors, il y a deux solutions. Soit chercher un autre éditeur, ce qui n'est pas forcément très évident. Soit faire éditer soi-même ses ouvrages à compte d'auteur.
Alors, c'est ce qui s'est passé pour vous et un de vos camarades aussi, le Nîmois originaire d'Avallon, Michel Redron.
Voilà, exactement. Donc, malgré tout, donc on a décidé de faire de l'auto-édition. Mais malgré tout, tout en nous donnant un nom, malgré tout, d'édition. Et ce sont les éditions... pas très original, d'accord, mais l'édition du Vignoble, pour des bourguignons, ça s'impose.
J'imagine que c'est un crève-cœur quand on perd son éditeur.
Ah, très. Oui, oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, j'étais très reconnaissant aux éditions de l'Armançon, qui m'ont, dès mon premier livre, m'ont pris en charge. Et ensuite, m'ont suivi pendant toutes les 15 ou 16 ouvrages que j'ai lits et j'ai écrit, quoi. Donc, une grande fidélité réciproque.
Alors, vous continuez d'écrire Ignacio Catalan, et j'aimerais que vous nous présentiez le roman que vous avez là entre les mains, qui est le plus récent et qui a pour titre Exil en sol mineur. Vous nous le présentez, le décor, l'intrigue, les personnages, les thématiques ?
Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que dans mes ouvrages, je fais rarement de la biographie. C'est pas dans mon style, c'est pas dans mes manières de faire. Mais dans celui-là précisément, il se trouve que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une dette vis-à-vis de mes parents qui étaient des immigrés espagnols, qui sont arrivés pendant la guerre d'Espagne avec de grandes difficultés, qui ont abouti à Arnay-le-Duc, petit village. Et il se trouve qu'ils ont eu toute leur vie une très grande reconnaissance pour l'accueil qu'ils ont reçu dans ce village, qui était Arnay-le-Duc. Donc j'avais la sensation quelque part que même si je n'aime pas parler de moi ou de ma famille, je leur devais au moins d'évoquer la question au travers d'un roman avec d'autres personnages, mais avec des péripéties ou des choses qui leur sont arrivées. Donc c'est l'histoire d'un ce roman, c'est l'histoire d'un émigré un musicien quasiment virtuose qui du jour au lendemain, du fait des circonstances, se retrouve bûcheron dans une forêt du Morvan. Alors, naturellement, c'est un bouleversement de sa vie considérable. Et c'est ce que j'essaie de décrire, comment ils réagissent et comment ils parviennent à retrouver non seulement une aisance, non tellement une aisance financière, mais surtout retrouver leur art, retrouver leur mode de vie.
Et le chemin du bonheur, d'une certaine manière.
Et retrouver, bien sûr, un bonheur qui avait été très fortement perturbé, c'est pas le mot, massacré pendant ces années de guerre.
Voilà. Aux éditions du Vignoble, Ignacio Catalan, alors en 2019, vous avez fait paraître Bonaventure, Marguerite et quelques autres. Un mot sur ce texte ?
Alors, Bonaventure, il s'agit de Bonaventure des Perriers, qui est un poète du XVe siècle, qui fut très connu pendant du temps de son existence, mais complètement oublié par la suite. On ne l'a retrouvé qu'au XIXe siècle. Et c'était quelqu'un qui, à son époque, a marqué son temps. C'était un ami de Clément Marot, pour ceux qui connaissent, ou de Louise Labbé, qui était la maîtresse de Clément Marot, souvent. Et il fut le confident de Marguerite de Navarre, donc la grand-mère, si je ne dis pas de sottise, la grand-mère du futur Henri IV.
Je crois que c'était la sœur de François Ier.
C'était la sœur de François Ier, voilà, tout à fait, bravo. Il se trouve que ce poète, oublié la plupart du temps, est natif, comme moi, d'un village qui s'appelle Arnay-le-Duc. Voilà.
Donc je rappelle le titre Bonaventure, Marguerite et quelques autres aux éditions du Vignoble. Comment se procure-t-on vos romans ? On va parler du recueil de nouvelles Parlons-nous d'amour, mais comment fait-on pour se procurer vos romans ? Par internet, on le commande chez un libraire, étant donné qu'il s'agit d'auto-édition Ignacio Catalan.
Oui, alors bien sûr, par internet, on peut les commander auprès de moi. Autrement, il est dans quelques librairies de la région, mais pas beaucoup. Donc effectivement, c'est pas toujours facile à trouver.
Alors, romancier certes, mais également nouvelliste, Ignacio Catalan. Entre les mains, j'ai un recueil de nouvelles intitulé « Parlons-nous d'amour ». Point de départ de ces nouvelles, une exposition, une découverte,
voilà,
surprenante.
Il se trouve que, si j'entre sans entrer trop dans le détail, que visitant un jour les expositions au château de Chaumont-sur-Loire, dans les jardins de château, du château de Chaumont-sur-Loire, l'un des architectes qui avait créé son jardin propre avait pris comme point de départ ou comme thème les déclinaisons de l'amour chez les philosophes grecs. Donc, qui sont, si on veut les énumérer...
Ah oui, je pense que parce que ça, c'est parlant.
L'amour inconditionnel, l'amour total, quelque part. Harmonia, qui est l'amour harmonie. Charis, qui est l'amour gratitude. Eunoia, qui est l'amour dévouement. Storgé, l'amour tendresse. Philia, l'amour amitié. Eros, bien sûr, l'amour érotique. Et ensuite, l'amour possessif, naturellement, via mania pate, amour passion, pathos, amour possessif. Et pour terminer, l'amour captatif, pardon, porneia, l'amour à l'appétit, goulu. Et donc, j'ai eu l'idée de reprendre, d'une manière assez légère, bien sûr, ces différentes définitions pour en faire autant de petites nouvelles.
À l'instant, Ignacio Catalan, enregistré lors de la fête du livre d'Anneau, c'était le 23 juillet dernier. Je rappelle les titres des ouvrages dont il a été question dans l'interview que vous venez d'entendre. Tout d'abord, le roman d'Ignacio Catalan, Bonaventure, Marguerite et quelques autres, disponibles aux éditions du Vignoble, tout comme son recueil de nouvelles qui a pour titre « Parlons-nous ». D'amour. Avis aux papivores, demain dimanche 29 octobre se tiendra la 32e édition de Festilivre. C'est à Moneto, près d'Auxerre, dans Lyon. Une importante foire du livre, de la BD et des vieux papiers à ne pas rater. Et côté Salon du Livre, plus de 40 auteurs en dédicace, dont une grande majorité d'autrices. Beaucoup de nouvelles signatures jamais venues à Festilivre, dont Marianne Maury-Kaufmann, dessinatrice bien connue des lecteurs de version Femina, avec son personnage Gloria, qui vient présenter Simon, son dernier roman. Mentionnons également la présence de Betty Yorio, qui arrive de son Morvan, non loin de Saulieu. Elle est psychologue et elle présentera son premier roman intitulé « Sous les mains de Shiva », un hymne à l'amour entre sexualité et spiritualité. Il y aura également Anne-Charlotte Laugier et sa poilante saga La Pétasse, qui a été depuis adaptée au théâtre. Mentionnons aussi la participation d'Antoine Gavory, auteur d'une biographie de Sacha Guitry, intitulée « Rendez-nous Sacha Guitry » aux éditions Ovadia. Nous en avions d'ailleurs parlé dans Wagon Livre en février 2020 avec l'auteur. Antoine Gavory revient dans l'actualité éditoriale avec un nouveau livre intitulé « Le goût des châteaux ». C'est au Petit Mercure, au Mercure de France, un texte qui présente des extraits de textes littéraires où les châteaux sont mis en valeur. Donc Festilivre 32e édition, c'est demain, dimanche 29 octobre, à Moneto, près d'Auxerre. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur Radion et à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le compte-rendu de la fête du livre d'Anneau qui s'est tenue cet été. C'était le 23 juillet dernier. Nous revenons juste après une première virgule musicale.
Mon cœur y va bien. J'ai juste deux traits. C'est gratinure, c'est rien. Et j'ai pas besoin des premiers soins. Et tu peux garder ton venin, le ravaler. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins. Il paraît même que tu chantes mes refrains. Tu vois, fallait pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour sur la fête du livre d'Anneau, qui s'est tenu le 23 juillet dernier, je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Laurent Janin, photographe. Son dernier récit de voyage nous emmène en Équateur, dont la capitale est Quito. Un récit de voyage illustré de nombreuses photographies de l'auteur. Je vous propose de partir à sa rencontre. Tout de suite, Laurent Janin enregistré lors de la fête du livre d'Anneaux.
Je m'appelle Laurent Janin, je suis photographe à l'origine, photographe traditionnel puisque je travaille toujours avec de la pellicule, je fais sur moi-même les tirages, j'ai fait des expositions photographiques, j'aime faire la photo, du photoreportage à travers le monde pour questionner un peu l'époque. Et je publie également des livres, donc j'ai fait des reportages un peu partout à travers le monde, en Iran, en Corée du Nord, pour ce qui est un peu plus inhabituel, on va dire, mais aussi dans pas mal de pays d'Amérique latine, en Europe et aussi en France aussi, bien sûr.
Chili, Brésil, Argentine.
Exactement, oui.
Et le plus récent, alors c'est peut-être pas le voyage le plus récent, c'est un voyage ancien qui a donné naissance donc à quoi, alors comment faut-il dire, c'est un livre documentaire, c'est un livre de témoignage, c'est un récit,
c'est un
photographique,
récit de voyage. C'est un récit de voyage, et quand je dis récit, ces deux écritures, j'essaye de faire converser, j'allais dire, l'instantané photographique avec le verbe, avec les mots. Donc c'est un voyage que j'ai fait il y a 16 ans, mais je n'avais jamais publié. C'était à une époque où j'essayais de vendre mes reportages auprès des magazines, mais je n'avais jamais publié. Et l'occasion, on va dire la parenthèse Covid, m'ayant bloqué à la maison, j'ai pérégriné dans mon grenier, j'ai retrouvé ces archives photographiques, les notes de voyage, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de publier.
Alors ce voyage, il y a plus de 15 ans, c'était donc en Équateur.
En Équateur, oui.
Une présentation de ce pays, Laurent Janin ?
Alors j'allais dire, c'est un petit pays qui est accroché au bastingage de la ligne équinoxiale, donc l'Équateur du même nom, qui a été... qui est devenu Équateur à l'occasion d'une expédition géodésique menée par un scientifique français, Charles-Marie de la Condamique, donc c'était au début du XVIIe siècle. Et le monarque de l'époque français avait demandé à ces scientifiques de mesurer la Terre, de matérialiser cette ligne équinoxiale. Et tout ça, ça a eu des conséquences très importantes, mine de rien, en matière de navigation maritime, hein, puisque d'un hémisphère à l'autre, on ne voit pas le même ciel, les mêmes étoiles. Donc pour se diriger, c'est très important. Ça a eu des conséquences importantes aussi en matière de cartographie. C'est à partir de cette époque-là qu'on a commencé vraiment à cartographier sérieusement notre planète, notre univers. Voilà.
Est-ce qu'il faut aussi alors préciser, d'un point de vue géographique, c'est que la ligne équinoxiale passe à 20 km au nord de la capitale de l'Équateur. La capitale de l'Équateur, c'est Quito.
Quito, oui.
Alors, Laurent, ce qu'il faut que vous expliquiez, c'est que vous n'allez pas d'hôtel 3-4 étoiles en hôtel 3-4 étoiles. Vous êtes vraiment dans le quotidien. Ce que vous allez observer, c'est le mode de vie au quotidien des peuples.
J'essaie d'être au plus proche des
vous
gens.
Dormez chez l'habitant,
voilà, dormir
dans
chez l'habitant.
Des petites chambres.
Et
pas
quand
chères.
Je dis chez l'habitant, ça peut être en ville, dans un des appartements traditionnels, mais quand je me trouve au fin fond de la selva, donc la forêt amazonienne, c'est dans la nature, c'est-à-dire dans des huttes au même endroit que vivent les Indiens, les Amérindiens. Notamment, j'ai eu l'occasion de rencontrer une communauté d'Indiens Jivaros.
Donc, je trouve qu'il faut absolument que vous nous racontiez cet épisode exceptionnel.
En fait, c'est le hasard qui me convoque à chaque fois, souvent. Alors, effectivement, j'ai envie d'aller à la rencontre de certaines personnes, certaines communautés, mais ça ne se décrète pas comme ça. Je n'ai pas ce qu'on appelle aujourd'hui des fixeurs. Vous savez, ces personnes qui vivent sur place et qui sont contre bonne rémunération sont chargées de préparer les rendez-vous. Non, moi, c'est le hasard, mon fixeur. Voilà. J'ai rencontré un jeune Amérindien, donc un indien Jivaros, qui est Jivaros quand on dit en bon espagnol, qui était en ville, qui était venu à la ville. Alors ils font du commerce sous forme de troc, hein, c'est-à-dire qu'ils troquent ce que la forêt amazonienne leur fournit, des fruits, des...
Oui, la notion d'argent n'existe
voilà.
pas.
Donc voilà, l'argent n'existe pas, donc finalement la délinquance non plus, quand on regarde bien, ça c'est important ça. Et donc il était venu à la ville troquer des produits de la forêt contre des produits qui ne plus manufacturés, par exemple de l'étoffe ou comment dire, des couteaux par exemple, dont ils peuvent avoir usage dans la forêt. Et il m'a dit, nos enfants n'ont plus de maîtresse pour l'instant. Et pour eux, l'éducation, c'est très important. Ça conditionne la survie même de leur communauté, c'est-à-dire l'envie des jeunes générations à vouloir rester dans la communauté plutôt que d'aller perdre leur âme dans les bidonvilles des grandes métropoles. Et donc, il m'a dit, on vous loge, on vous nourrit, en contrepartie, si vous pouviez apporter, compenser l'absence de cette enseignante. Alors j'ai dit, pourquoi pas, banco, allons-y. Mais je n'imaginais pas que ça se trouvait à près de 5 heures d'où je me trouvais, 2 heures de bus et 3 heures de marche dans la forêt. Donc Tupac, il faut imaginer, nous étions tout pantelant, j'allais dire, là, il y avait des pluies assez importantes, parce qu'il pleut très, très souvent dans la forêt, c'est pour ça que ça pousse tant. Et Tupac m'ouvrait le chemin à coups de machette, pour se frayer un chemin. Je ne sais pas comment il pouvait se diriger, il n'avait pas de boussole, mais lui savait où il était. Et je veillais à ne pas me laisser distancer, parce que j'aurais été bien en peine de retrouver mon chemin et d'être là aujourd'hui.
Et là, Laurent Jeannin, vous arrivez dans un village de huttes, quelque chose de sommaire, d'un peu archaïque.
Ce n'est pas un village, c'est une clairière. Donc en fait, ce sont des gens qui sont plutôt nomades. Ils aménagent une clairière où, avec les matériaux sur place, le bois que fournit la forêt, ils construisent des huttes sommaires et ils exploitent en termes de chasse, de fruits, de racines, tout ce qu'ils peuvent collecter, tout ce qui peut assurer leur survie. Et une fois, de temps en temps, ils bougent. Donc ils vont aménager une autre clairière plus loin.
Alors bien accueilli,
bien accueilli. Mais encore une fois, j'étais pas dans un hôtel là 5 étoiles ou même un hôtel tout court. Je vivais, j'étais autour du feu en même temps qu'eux, parce que le feu, c'est pas pour se réchauffer, mais c'est pour chasser l'hygrométrie, parce que c'est vrai qu'il y a une humidité assez terrible là-bas. Alors les huttes sont pas très hautes, je me suis cogné plusieurs fois la tête. Et il n'y a pas d'électricité non plus, pas de panneaux solaires, rien de tout ça.
Vraiment un mode de vie rudimentaire.
Voilà, ce sont des cueilleurs, chasseurs-cueilleurs presque. Hein.
Alors que mange-t-on quand on se retrouve dans une telle forêt tropicale ?
La forêt est très généreuse, on trouve des bananes, des ananas, de la papaye, et des fruits dont je ne connais même pas l'existence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une connaissance assez impressionnante en termes de pharmacopée naturelle. La forêt pourvoit à tous les besoins alimentaires comme pharmaceutiques. Mais eux seuls connaissent, peut-être des pharmaciens de longue expérience occidentaux pourraient reconnaître telle ou telle herbe pour se soigner. Mais n'oublions pas que tous les opiacés, je ne vais pas donner de marque ici, mais pour les maux de tête, tous les opiacés, ça provient quand même de la nature. Hein.
Alors Laurent Jeannin, êtes-vous allé à la chasse avec ces Indiens Jivaro ?
Je les ai accompagnés, je n'ai rien chassé moi. j'étais à vrai dire assez... j'avais quelques appréhensions, surtout la nuit venant, parce que il fait une nuit noire. Hein. En plus, la forêt, la canopée est très dense, donc on voit très peu. Et je craignais qu'un serpent vienne se faufiler dans ma hutte. C'était assez.
Avez-vous mangé un peu de viande ?
Oui, j'ai mangé ce qu'ils appellent du ganta, donc c'est une espèce de rongeur, un ragondin, qui piège en fait. Donc c'est toutes les, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien de tout ça, c'est la nature qui, on est vraiment pas à l'aube de l'humanité, n'exagérons pas quand même, mais c'est assez impressionnant.
Donc un voyage en Équateur particulièrement riche en rencontres, notamment à Otavalo, ouais. Donc la bourgade d'Otavalo, où vous rencontrez là encore un jeune gars, ouais, Louis. Alors là aussi, ce que vous voulez montrer dans votre livre, Laurent Jeannin, j'en rappelle le titre, un journal des Équateurs, avec ce sous-titre « Le trésor des peuples », c'est que quelque part, vous montrez que il y a des peuples qui préservent une vie en communauté, et c'est une façon de faire reculer la mondialisation, c'est une façon d'essayer de survivre, de ne pas se laisser submerger par l'uniformisation d'une mondialisation galopante.
Alors,
et contre laquelle il est difficile de lutter.
C'est un moyen résilient, on va dire, c'est une résistance consciente. Parce qu'il faut savoir que la communauté d'Otavalo est reconnue bien au-delà des frontières pour la qualité des tissus. Donc c'est une économie tisserande à l'origine, beaucoup, et de haute qualité, et qui se trouve désormais concurrencée par les tissus qui viennent d'Inde, même du Bangladesh, hein, donc à très bas prix, mais pas la même qualité. Et c'est vrai que ils peuvent pas lutter. Non. Tout ce qui s'est passé chez nous, j'allais dire, en Europe occidentale, où on a vu le textile disparaître, quasi disparaître. Pareil aussi pour les hauts fourneaux, toutes ces activités industrielles qui ont disparu. Eux, et pour eux, il ne s'agit pas simplement de gagner sa vie, il s'agit de préserver un mode de vie. Voilà, c'est ça. Et le mode de vie, c'est quand même la communauté. Et j'avais réalisé un montage audiovisuel dont le titre s'intitulait « Le soleil se lève à l'ouest ». Je me disais, voilà, peut-être que cette prise de conscience des dangers de la mondialisation, qui devait être heureuse initialement, mais qui finalement détricote le passé qui nous justifie, hein, on vient pas de rien, je veux dire, toute la culture qui s'est sédimentée au fil des siècles nous a construit. Je sais que c'est à la mode actuellement de vouloir faire table rase du passé, mais quand même on vient pas de rien, et tout ce passé, toute cette culture, voilà, la connaissance de la pharmacopée par exemple, que la forêt produit, c'est une accumulation de connaissances qui s'est faite au fil des générations de ces sociétés amérindiennes, de ces communautés.
Mais étonnamment, vous m'expliquiez, Laurent Jeannin, que Louis, ce jeune homme...
Oui, entre 25 et 30 ans quand j'étais allé, oui.
Vous dites qu'il parle, bien sûr, la langue officielle du pays, donc en Équateur, qui est l'espagnol. Sa communauté, ils ont une autre langue, qui est le Quichua.
Oui.
De même que les Jivaros ont leur propre langue.
Oui.
Et finalement, linguistiquement parlant, vous dites les Espagnols, les colonisateurs espagnols n'ont pas réussi à faire disparaître la langue de ces peuples, j'allais dire autochtones. Et en fin de compte, vous dites que la mondialisation pourrait faire disparaître les modes de vie de ces peuples, alors que linguistiquement parlant, ils ont réussi à maintenir leur double langue, la langue officielle et la langue de la communauté.
Oui, c'est étonnant que donc ces peuples parlent la même langue qu'avant l'arrivée des Espagnols. Ils ont préservé ce patrimoine linguistique, et pas que la langue, mais la langue est un élément du patrimoine linguistique. Et plusieurs siècles d'hispanisation n'est pas venu à bout de tout ça. Et on se dit que c'est une possibilité, la mondialisation, la Internet, l'hyperconnexion, peut-être risque de mettre un terme à tout ça.
Mais 15 ans après, parce que Laurent, ce voyage en Équateur, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, il faudrait retourner.
Après, je me tiens toujours au courant d'une certaine actualité. Alors,
la mondialisation a fait son œuvre là-bas, en Équateur.
Disons que ce qui était majoritaire devient minoritaire. Et on voit bien, même dans nos pays d'Europe occidentale, j'ai suffisamment... de recul, je suis plus un tout jeune premier, on va dire, j'ai pu me rendre compte de quelque part de l'américanisation ou de la globalisation de nos modes de vie. On est tous au McDo, au Coca. Enfin, je veux dire, c'est ce qui a fait notre culture. Il y a quelques résistants. Peut-être ici, nous sommes à Hanau. Il y a des gens qui sont des Gaulois réfractaires, comme on
Mais
a pu entendre.
Un salon du livre à Hanau, c'est déjà un signe de résistance.
C'est déjà un signe
manière.
De résistance. Tout à fait, c'est un signe de résistance. Mais c'est pas majoritaire. Voilà. Et donc, tant qu'il y aura des hommes, quand je dis des hommes, c'est au sens large. Hein, voilà, tant qu'il y, a des, il y aura des résistants pour préserver ça, bah, il y a de l'espoir. Et j'allais dire, finalement, j'aime citer un écrivain comme par exemple Bernanos qui dit que l'espérance, c'est un désespoir qui est surmonté. Donc surmontons notre désespoir.
Merci cher Laurent Jeannin. Je rappelle donc Journal des Équateurs, le trésor des peuples. Si on veut se procurer vos récits de voyage, on peut se rendre sur votre site internet. Je vous laisse
les coordonnées,
Laurent.
Le site internet, c'est www.diaventure.fr. Il y a une boutique en ligne. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre libraire habituel. Amazon aussi, mais évitez, tant que faire se peut. Donc après, votre libraire, s'il ne l'a pas, il va le commander. Et sur les salons du livre, parce que le salon du livre, c'est un moment de rencontre, de convivialité, et de plus approprié qu'une rencontre en direct où on peut discuter avec l'auteur et l'auteur avec le lecteur.
À l'instant, vous venez d'entendre Laurent Jeannin pour son journal des Équateurs sous-titré « Le trésor des peuples », un reportage enregistré lors de la fête du livre d'Hanau. C'était le 23 juillet dernier. Une petite information concernant le beau succès de la deuxième édition du prix des lecteurs des bibliothèques du Morvan. 25 bibliothèques ont participé sur les 4 départements de la Bourgogne. 3 livres étaient effectivement à départager. Liliane Mosca pour son roman « Le jardin secret de Violette », Loïc Le Goff pour « Le grand détour » paru aux éditions Mutine, et enfin Charles Dauba pour un roman historique paru chez Gallimard et intitulé « Le procès des rats ». C'est Liliane Mosca qui l'emporte avec « Le jardin secret de Violette » paru aux presses de la Cité. Une information que je souhaitais glisser aujourd'hui dans votre wagon livre. Et puis, autre information concernant le programme de wagon livre de samedi prochain 4 novembre, nous vous proposerons un entretien avec Éric Reinhardt pour son dernier roman intitulé « Sarah, Suzanne et l'écrivain » paru chez Gallimard. Éric Reinhardt était le 23 octobre dernier l'invité du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon, et c'est à cette occasion que j'ai pu enregistrer une émission avec lui, une émission qui, à mes yeux, a une importance puisque Éric Reinhardt fait partie des 4 finalistes du prix Goncourt qui sera décerné le 7 novembre prochain. Éric Reinhardt donc à notre micro samedi prochain sur Radione. Pour l'heure, nous marquons un nouvel intermède musical et nous reviendrons juste après à la fête du livre d'Hanau qui s'est tenue le 23 juillet dernier. Merci d'être avec nous.
J'ai beaucoup de choses à dire, il faudrait toute une vie pour te remercier, papy, de tout ce que tu m'as appris. J'ai envie de m'enfuir quand je te vois dans ce lit. Que dire avant le pire, à côté de mamie? J'ai beaucoup de choses à dire, mais les mots ne sortent pas. Mes yeux veillent tes soupirs, du coup mes yeux ne clignent pas. Je t'empêche de dormir, entends-tu le son de ma voix? Toi qui disais que partir voulait dire on se reverra. Et même si demain je n'entends plus le son de ta voix, au ciel je lèverai les mains pour te garder contre moi. Voyager t'aimer ça, mais les étoiles ça fait un peu loin. Marcel, 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 Marcel. Bruxelles. J'avais tant de choses à dire, mais la vie n'attend pas. Et je t'ai pas vu partir, je voulais pas voir ça. Comment réagir, pourquoi mes larmes sont un poids. T'avais dû bâtir avec tes armes un soldat. T'auras plus à souffrir, je le ferai à ta place. J'ai presque envie de mourir, car déjà tu t'effaces. Je me mets à courir pour mieux suivre ta trace. Mais à quoi bon fuir, c'est si loin l'espace. Et même si demain je n'entends plus le son de ta voix, au ciel je lèverai les mains pour te garder contre moi. Voyager, t'aimer ça, mais les étoiles, ça fait un peu loin. Marcel, 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 Marcel. Tu sais, je voudrais garder ton sourire et l'imprimer dans le ciel. Tu sais, faudrait qu'à chaque soupir tu rallumes le soleil. Je voudrais rouvrir mes souvenirs, qu'ils deviennent éternels. Ils resteront dans mon empire, on frôlera les gratte-ciels. Tu mets les voiles et mon bateau un peu le tournis devient réel et j'ai d'en haut le film de ma vie. Je t'ai promis à l'hôpital que je verrai sur mamie. Moi j'aime encore plus les étoiles depuis que t'en fais partie. Marcel, 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 Marcel. La Géocère, la baie des champs, tous ces souvenirs immortels. Marcel, mes premiers concerts, mes instruments, tous tes vinyles de Brel. Marcel, Marcel, balalala, 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 balalala.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je l'avais annoncé au sommaire de notre rendez-vous littéraire. Lors de la fête du livre d'Anneau, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le président de l'Académie du Morvan, Jean-Loup Flouest. L'Académie du Morvan est une association loi 1901 fondée en 1967 à l'initiative de Joseph Pasquet, dont la devise était « Tout ce qui intéresse le Morvan est nôtre ». Alors cette jeune société savante a pour vocation d'être un carrefour de rencontres, d'échanges et de documentations ouverts à tous, morvandiaux d'origine ou d'adoption, chercheurs ou simples curieux, impliqués ou non dans la vie politique et associative et de toute génération. Le ciment commun de cette association est un attachement et un intérêt pour cette petite patrie du Morvan, sa culture, son histoire, sa nature comme sa vie économique. Tout de suite à notre micro, Jean-Loup Flouest, président de l'Académie du Morvan, rencontré lors de la fête du Livre d'Anneau.
Jean-Loup Flouest, donc je suis actuellement le président de l'Académie Morvan, mais je suis arrivé dans le Morvan après un parcours d'enseignant en lettres classiques et surtout en tant qu'archéologue, puisque je suis venu pour être le coordonnateur scientifique des fouilles archéologiques sur le Mont Beuvray. Et donc, c'est en tant qu'archéologue que je me suis installé dans le Morvan il y a 33 ans maintenant. Et je ne regrette vraiment pas d'être installé, d'avoir acheté une maison, d'avoir épousé une épouse en Morvan. Donc, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, prendre en charge par la suite, après avoir quitté le projet archéologique, l'Académie du Morvan, c'était aussi un projet passionnant, parce qu'il y a plein de fortes personnalités dans cette région du Morvan et notamment dans l'Académie du Morvan.
Alors l'Académie du Morvan est une société savante.
Voilà, c'est une toute jeune société savante, hein, pas, puisque la plupart d'entre elles sont nées au milieu du 19e siècle. Celle-là, elle est née seulement en 1967. Donc de la volonté d'intellectuels, d'hommes politiques, évidemment, François Mitterrand.
Des hautes figures.
Voilà. Le grand, bon, Monsieur Pasquet, hein, qui était notre grand personnage, mais il a été suivi par plein d'autres qui ont écrit énormément d'ouvrages importants pour le Morvan. Donc c'est une association à but culturel dont le projet initial était de dynamiser un peu l'ambition intellectuelle, culturelle des associations locales.
Donc comme toute association, on paye sa cotisation, 30 voilà. euros pour l'année.
Tout à fait.
On y reçoit les publications à raison de
deux bulletins par année, voilà, c'est ça.
Et puis des sorties.
Et des sorties, donc puisque la dernière en date, c'était à Avallon. Et donc, on renouait avec la visite qu'on avait faite il y a 20 ans, hein, je crois, Claude, donc à Avallon. Donc, toujours pareil, en deux parties. Une partie centrée sur le musée et une partie centrée sur l'histoire d'Avallon.
Donc, le musée Jean Després.
Le musée Jean Després.
Et Avallon avec sa riche histoire.
Hein, voilà. Qu'on a visité sous l'angle des lieux de pouvoir avec une guide qui nous a soutenu une thèse tout au long de la visite et c'était très, très intéressant.
Alors concernant les publications, par exemple, j'en ai quelques-unes entre les mains, de Christian Épin à la recherche du Morvan ou les sobriquets des environs de Planchers, Michel Salès, c'est très pointu, tout de même. Des gens qui sont passionnés, extrêmement érudits et qui doivent, à mon avis, chercher, et on cherche où alors
la publication dont vous parlez sur à la recherche du Morvan, c'est évidemment un sujet bateau au sens où les définitions du Morvan sont nombreuses, mais justement Christian Épin, notre secrétaire général, a voulu se pencher sur les travaux de 12 chercheurs. Donc il a repris les synthèses de ces chercheurs, les uns voyant uniquement l'angle géographique, géologique, sociologique, linguistique, etc. Et il a créé un indice assez drôle qu'il appelle l'indice de Morvanditude. Et donc il a donné des points en fonction justement de l'accord des communes avec les études de ces 12 chercheurs, historiens, géographes, géologues, généalogistes, etc., linguistes. Et il arrive à une définition qui est plus limitée que celle du parc naturel du Morvan, évidemment, mais permet aux gens de savoir sur quels critères on définit cette caractéristique du Morvan.
Alors par exemple, là j'ai La chasse en Morvan de Marie-Aimée La Tournerie, La faune halieutique en Morvan. J'ai pris une publication consacrée à la première guerre dans le Morvan. Les sujets sont très nombreux. Alors, il y a des permanences.
Oui, il y a une permanence, c'est le mercredi matin à la médiathèque Condorcet à Château-Chinon à 10h, et nous accueillons des chercheurs et les dernières visites qui nous ont marquées, c'était des jeunes qui venaient faire des études sur le flottage en Morvan. Donc des jeunes qui ont une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années maximum, qui veulent savoir ce qu'a représenté ce flottage du bois dans l'économie du Morvan. Et là, on peut dire qu'il y a plusieurs membres de l'Académie qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et qui ont montré à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan sociologique l'impact colossal que ça a représenté, plus évidemment l'impact écologique sur la gestion de nos forêts.
Quel est le profil des membres qui adhèrent à l'association de l'Académie du Morvan? Surtout des enseignants, des gens cultivés? Non, c'est
oui,
une
c'est ça.
Fausse
c'est,
idée
c'est très, non, non, c'est très varié. Il y a aussi bien des gens qui sont très attachés au patrimoine local, donc qui sont... on pourrait dire presque entre guillemets un peu chauvin, hein, qui tiennent à l'étiquette Morvandio. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été faire leur carrière ailleurs, à Paris, dans le monde entier, et puis qui reviennent dans le Morvan, qui est leur pays d'origine, le pays de leurs parents, et qui aiment bien pouvoir jouer sur ces deux aspects de leur vie et nous apporter à la fois toute leur expérience professionnelle à l'extérieur, mais en même temps tout leur amour pour ce pays.
À l'instant, Jean-Loup Flouest, président de l'Académie du Morvan, enregistré lors de la fête du livre d'Anneau le 23 juillet dernier. Concernant les salons à venir, je vous l'ai dit, demain, dimanche 29 octobre, la 32e édition du Festilivre, c'est à Moneto et c'est dans Lyon. Dans la Côte d'Or, cette fois-ci, eh bien, c'est à Saulieu et c'est demain, à l'espace Jean Bertin, de 9h30 à 17h30, la 16e fête du livre de Saulieu, qui a cette année deux invités d'honneur. C'est Ilker Caliscan, illustrateur accompagné de Jean-Charles Gibault, professeur d'histoire et scénariste d'une bande dessinée intitulée « Jeunesse au maquis, résistance en Morvan », une bande dessinée publiée à l'occasion des 40 ans du musée de la résistance en Morvan, avec le soutien de l'Association pour la recherche sur l'occupation et la résistance en Morvan. C'est donc demain à Saulieu, à l'espace Jean Bertin, 16e fête du livre de Saulieu, avec donc deux invités d'honneur que nous saluons avec beaucoup de sympathie, puisque nous avons déjà eu l'occasion de les accueillir devant notre micro sur l'antenne de Radion, Ilker Caliscan, Jean-Charles Gibault. Je rappelle le titre de leur bande dessinée historique, « Jeunesse au maquis, résistance en Morvan ». Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur l'antenne de Radion à bord de Wagon Livre, émission aujourd'hui de compte-rendu de la fête du livre d'Anneau. On se retrouve juste après un nouvel intermède musical.
Je te vois partir, je pense, je crois que tu vas revenir. Je croise les doigts, ton regard en avant trace ton chemin. Tu sais, je suis patient, mais je t'attends en vain. Je te vois partout. Le ciel brille dans les murs de la maison, ceux de la ville, et je te vois partout. Mes yeux scintillent et tout devient flou. Je pars en rire et je te vois partout. Depuis que t'es parti, je t'appelle tous les jours. Chaque soir en silence, sombre, et je t'appelle au secours. Et l'écho me répond que tu ne m'entends pas. Tu me crois ou non, mais sache que je t'entends dans chacun de mes pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons notre compte-rendu de la fête du livre d'Anneau, cette fois-ci avec un reportage enregistré sur place le 23 juillet dernier avec Didier Cornaille. Didier Cornaille habite Anneau depuis presque 50 ans. Il est né à Cambrai dans une famille de paysans. C'est un observateur passionné du monde rural. Didier Cornaille a été journaliste au Figaro Agricole, puis au quotidien Le Monde ainsi qu'au Progrès. Il est l'auteur de guides de randonnée. Il a largement contribué à la réhabilitation des chemins de nombreuses régions de France, dont la sienne, le Morvan. Son premier roman, Le vol de la Buse, paru aux éditions de l'Armançon en 1991, lui vaut le prix Sully Olivier de Serres l'année suivante. Didier Cornaille ne s'interdit aucun genre. Des carnets de voyage, des essais, en tout cas il se montre curieux, voire critique à l'égard du monde qui l'entoure. Un grand nombre de ses romans sont aujourd'hui disponibles aux presses de la cité. Le tout nouveau roman paru aux éditions Lire à l'Est a pour titre « Le sang est La Sève. C'est un roman historique qui revient sur l'univers des Galvachés, les bouviers du Morvan, qui notamment au XVe siècle assuraient le transport des meilleurs vins de Bourgogne depuis les chais de Beaune jusqu'à Bruges, la capitale des Flandres, où les festins offerts par Philippe le Bon attiraient la fine fleur de l'aristocratie. Tout de suite à notre micro, Didier Cornaille.
Encore une fois, ce Morvan, les braves gens et les braves Morvandiaux n'en vivaient pas, trop pauvres pour nourrir les gens à longueur d'année, dans une économie vivrière, bien sûr, comme il faut l'imaginer à l'époque. Il fallait bien qu'ils aillent gagner leur vie ailleurs, et notamment avec leurs bœufs, qui étaient leur force. Il y a depuis très très longtemps, hein, très longtemps, ils allaient débarder le bois dans les forêts où travaillaient les bûcherons. Mais ils allaient jusque dans les Vosges, dans les Ardennes, pas de chez moi là-haut. Hein. Ils allaient très très loin. Un des tout derniers galvachés d'Anneau, Étienne Lemoine, dit le Tienne, que j'ai beaucoup connu et qui est le personnage...
Et qu'on rencontre dans voilà, le vol de la Buse.
Dans le vol de la Buse, oui, c'est le personnage principal des vols de la Buse. Le Tienne racontait que son dernier attelage de bœufs, il l'a vendu dans les Vosges au moment de la drôle de guerre, avant la guerre. Il était dans les Vosges. Et ces gens-là ont marqué énormément parce que, d'abord, ils étaient très mal vus. C'était des migrants. Du Morvan ne vient ni bon vent ni bonne gens. C'est ça, en fin de compte. Le mauvais vent, c'est le vent d'ouest qui amène la pourriture grise. Tout le monde en est d'accord. Mais ni bonne gens, c'était quoi, ces braves gens? C'était des migrants. Ils n'étaient pas d'ici. Toi, tu n'es pas d'ici, tu ne peux pas comprendre. Chose qu'il arrive encore qu'on me dise à moi. C'est pas grave, ça.
Alors, il faut rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes originaire du Nord.
Oui, je suis du Nord.
Pays des bêtises, et Didier.
Je suis natif de Cambrai. Le seul pays dont je peux être natif, c'est le pays des bêtises. Alors, bien sûr. Mais eux, ils étaient considérés comme des migrants. Et à toutes les époques, quels que soient les migrants, et j'ai bien dit à toutes les époques, hein, ils ont toujours été mal vus, les migrants. Et c'est donc qu'ils étaient très, très mal vus. Mais ils en ont tiré une sorte de philosophie. On nous reçoit mal. On nous traite de feignants, on nous traite de voleurs, de tous les noms. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Quand on remonte chez nous, on se retrouve chez nous. Et ils revenaient toujours vers leur Morvan, où les attendait la borde. La borde, c'est la petite ferme, hein, la femme, les enfants, etc. Et ils y revenaient toujours. Et ça, il y a une fidélité au pays qui est très forte.
C'est intéressant, cette expression des migrants de l'intérieur, d'une certaine manière.
C'est
parce qu'il en est aussi question dans les boîtes Discord. Alors, c'est votre avant-dernier roman où là, vous évoquez et vous nous rappelez que finalement, bon, d'abord, la France n'a pas forcément bien considérer les harkis qui lui étaient pourtant restés fidèles en Algérie,
ouais,
au moment de l'indépendance, certains même au sacrifice de leur vie.
De leur
ça
vie.
C'est un peu la
ils
honte,
ont été très très maltraités même quand ils sont arrivés en France. Mais rentrons pas dans ces détails-là, on les connaît. Il se trouve qu'il y en a eu un peu partout, et notamment dans, et là je prends l'exemple d'un village à côté d'Anneau, voisin d'Anneau, Roussillon au Morvan, où il y a eu ce qu'on a appelé un hameau de forestage. C'est-à-dire, c'était les Eaux et Forêts, avant que ça ne devienne l'ONF, hein, qui recevaient des harkis, mais en petite équipe, hein, une soixantaine grand maximum, pas comme dans les immenses camps du Midi où ils ont été maltraités de façon ignoble. Bon, ils les ont reçus pour faire des travaux, dans un objectif bien précis. Faire des travaux, par exemple, là, ils ont tracé une route entre le Grand Misieu et les étangs de la Canche, pardon, le barrage de la Canche, une petite route forestière que je vous invite à prendre, qui est magnifique. Ce sont eux qui l'ont tracée. Et ils ont donc travaillé avec les Morvandiaux pour débarder ce bois, etc. Et tout de suite, c'est lié une grande amitié entre ces gens-là, faisant table rase de tout le reste, de tout ce qu'on vient de dire là. Eux, ben là, sont des hommes qui se sont retrouvés. Tout simplement, on ne peut pas dire autre chose. Pendant que les enfants se retrouvaient à l'école, l'institutrice de l'époque, qui est encore de ce monde, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, me disait, mais monsieur, vous vous rendez compte, du jour au lendemain, pour l'école d'un petit village comme Roussillon, le nombre d'enfants à l'école a doublé. Et puis ces enfants-là, pour la plupart, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une école. Si vous saviez, et elle ajoutait, si, c'est pas moi qui parle, je ne fais que répéter ses paroles, si vous saviez ce qu'ils avaient soif d'apprendre. C'est beau ça, hein ? Et c'est un peu ce qui m'a poussé à écrire ce roman, où il s'agit surtout d'amitié entre les gens. Bon, les deux personnages principaux, c'est un vieux paysan du pays, Charles, qui rencontre le petit-fils d'un harki. Petit-fils, hein.
Et tout de suite... Un paysan forestier qui travaille encore avec les chevaux.
Avec les chevaux.
Et les même chevaux de l'Auxois ou des Comtois.
Oui.
Mais pas des Ardennais.
Pas des Comtois, non. Ah ben, l'Auxois est un cousin de l'Ardennais. Hein. Oui, tout à fait. C'est la branche auxoise de l'Ardennais.
Donc travaille... Charles va entrer en sympathie avec ses...
Ils vont rentrer en amitié, une forte amitié, au point qu'il va finir par lui céder sa... Oui, lui céder sa ferme. Mais il faut dire que ce roman, donc, qui traite des harkis, Roussillon m'a servi d'exemple, c'est certain. Je ne connaissais pas ces problèmes. Moi, j'arrivais du Nord, hein, où ces problèmes-là, on ne les a jamais connus. J'ai découvert ça totalement ici. Ça m'a assez sidéré. Et j'ai été très frappé par cette histoire de liens qui se sont créés entre ces gens, alors que les harkis, ailleurs, on les jetait, on les... Bon. Et c'est ce qui m'a amené à écrire ce roman où je prends Roussillon comme exemple.
Roussillon, mais ce n'est qu'un exemple. Morvan, hein.
Roussillon en Morvan, oui, bien sûr. Mais ce n'est jamais qu'un exemple. Hein. C'est, j'ai nourri mon imaginaire.
Vous avez cherché quand même quelques témoignages et parfois on vous a un petit peu envoyé bouler ou alors on vous a raccroché au nez.
Vous m'avez l'air bien informé, ah, vous là. Oui, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que après ça, se sont créées des tas de tensions autour de ça, qui existent encore dans une grande mesure, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce qui a nourri ces tensions, c'est que quand j'ai écrit ce roman, que je l'ai proposé à mon éditeur, nous sommes en 2023, 2012 ou quelque chose comme ça, hein, je dis ça à vue de nez, hein, il m'a été refusé, et c'est pas l'éditeur qui me l'a refusé. C'est qu'il n'était pas question de parler des harkis. Il y avait une censure. Je pèse mes mots quand je dis censure. Tout à fait officielle. Et on m'a dit non, on ne peut pas publier. Effarant. Parce que j'y parlais des harkis. Et quelques années après, 7 ou 8 ans après, 8 ans après, il y a eu un rapprochement entre la France et l'Algérie, vous savez. Puis surtout, il y a eu un rapport historique de Benjamin Stora. Rapport extrêmement intéressant d'ailleurs, sur tous les plans, hein, très objectif. Et là, brusquement, les harkis sont devenus à la mode. Et on m'a dit, on veut ton roman. Vous voyez comme les choses changent. Et mon éditeur rigolait beaucoup quand il est venu me retrouver, quand elle est venue me retrouver en me disant, hey, ton roman, il faut le sortir de la poussière, on le veut. Et parce qu'il parle des harkis. Voilà.
Alors, ce roman qui parle des harkis, donc qui arrive en France, notamment dans le Morvan, dans les hameaux de Forestal, voilà, donc oui. A pour titre Les Bois de Discorde, c'est aux presses de la Cité. Tout récemment sorti. Le plus récent, c'est Les Arrosoirs de Casamance.
Février dernier.
Sorti en février de cette année 2023, toujours aux presses de la Cité. Et Didier Cornaille. Alors, là encore, peut-être, parce que Didier, comme Lucette Desvignes, a plein de livres dans ses tiroirs qui ne sont pas encore publiés.
Le parallèle avec Lucette me fait un plaisir fou.
Mais Lucette Desvignes a énormément de textes
non
publiés.
Oui. J'en ai quelques-uns.
Alors Didier, aux éditions Lire à l'Est, un roman historique qui nous amène, alors, La Galvache, au XVe siècle, roman intitulé Le sang et la sève.
Roman historique, là. Alors là, au point que les presses de la Cité m'ont dit non, qui est mon éditeur habituel, m'ont dit non, nous ne sommes pas spécialisés dans les romans historiques, ce que j'ai parfaitement compris d'ailleurs, on préférerait que tu dises ça ailleurs. Et Lire à l'Est l'a accepté, et c'est un roman, c'est vrai, qui se passe au XVe siècle et qui m'a été soufflé par ce qu'on appelle une tradition orale que j'ai entendue à de nombreuses reprises, qui voudrait simplement que, début du XVe siècle, je situe fin de la guerre de Cent Ans, une période épouvantable. Ça se bat partout, dans tous les sens. La Bourgogne est alliée à l'Angleterre. Vous voyez que c'est une période bizarre, la Bourgogne alliée à l'Angleterre, la France à la Champagne, etc. Donc ça se bat entre les deux. Une période à la fois sanglante, mais aussi d'une pauvreté du petit peuple. On ne peut pas imaginer. Et on envisage le mariage de Philippe III le Bon, grand-duc de Bourgogne, avec Isabelle de Portugal, mais pas en Bourgogne, à Bruges, puisqu'ils avaient aussi les Flandres, et ça doit se passer à Bruges. Et Nicolas Rollin, chancelier du dit Philippe le Bon, lui fait don de 5 muits de Bourgogne, entre guillemets. Un muit, c'est une pièce en un peu plus gros. C'est l'ancienne pièce de l'époque, si vous voulez. Hein. En un peu plus gros, ça veut dire 350 litres ou chose comme ça. Je dis ça de mémoire. Oui, mais il faut les transporter, ces 5 muits de Bourgogne. Depuis Beaune, jusqu'à Bruges. Wow, 600 kilomètres. Ah oui, mais quels 600 kilomètres. Et on vient chercher des Galvachés, on ne leur demande pas trop leur avis. Et alors là, ce serait authentique. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé de preuves écrites de cette histoire-là. Mais à l'époque, ce qui concernait le petit peuple, vous savez, on ne le mettait pas trop noir sur blanc. Hein. Bon, et j'ai tout lieu de croire que cette histoire est authentique. Et on est venu chercher des galvachés, mon vendu, on leur a dit. On est venu chercher les galvachés, pourquoi? Parce que là, de façon tout à fait attestée et documentée, les galvachés fournissaient le vin de Paris à Cravant, sur l'Yonne. Là, c'était eux qui le transportaient depuis la Bourgogne jusqu'à Cravant, où il était mis sur des bateaux direction Quai des Célestins à Paris.
Cravant, un peu au sud d'Auxerre, oui, qui avait à l'époque un grand port, hein, d'ailleurs. Mmh.
Le port de Cravant était un port important. Il y a eu une bataille très importante aussi à Cravant. Le livre commence presque à la bataille de Cravant. Et comme donc ils avaient cette réputation d'être capables de transporter ça, on leur a dit, on en a pris 5, ailleurs vous avez transporté ça jusqu'à Bruges. Et là, j'ai essayé d'imaginer ce qu'a pu être ce voyage. Dans des pays à feu et à sang, des routes qui n'existaient plus, c'était des fondrières, quoi, hein, d'un bout à l'autre, dans des conditions épouvantables. Et j'ai imaginé ce voyage. Bon, sans redéflorer l'histoire, je peux dire qu'ils y sont arrivés à Bruges et qu'ils en sont même revenus, mais j'en dirai pas plus.
Nous n'en saurons pas plus pour le moment. En tout cas, c'était Didier Cornaille enregistré le 23 juillet dernier lors de la fête du livre d'Anneau. Je rappelle le titre de son dernier roman, Le sang et la sève, disponible en librairie aux éditions Lire à l'Est. Alors, au moment où j'enregistrais ce reportage avec Didier Cornaille dans le Morvan à Anneau, nous étions loin d'imaginer que 2 mois plus tard, dans le cadre de Livres en vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon, Didier Cornaille serait récompensé du prix Albert Bichot, qui est attribué à un ouvrage de littérature généraliste contemporaine, prix parrainé par le domaine Albert Bichot. Et donc Didier Cornaille s'est vu distingué et récompensé pour ce roman. C'était le 23 septembre dernier lors de Livres en vigne. Notre wagon-livre touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez manqué les références des différents ouvrages dont il a été question aujourd'hui, vous les retrouvez très facilement sur Internet, sur notre site yannickpetit.fr. Je vous rappelle, ce week-end, c'est demain, dimanche 29 octobre, le salon Festilivre 32e édition à Moneto. Et puis n'oubliez pas la 16e fête du livre en Côte d'Or. C'est à Saulieu avec 2 invités d'honneur, Ilker Caliscan et Jean-Charles Gibault, pour leur bande dessinée Jeunesse en Morvan. Pour ma part, je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion, samedi 4 novembre, pour un entretien avec le romancier Éric Reinhardt, qui signe chez Gallimard donc un nouveau livre intitulé « Sarah, Suzanne et l'écrivain ». Éric Reinhardt qui, je le rappelle, fait partie des 4 finalistes du prix Goncourt qui sera décerné le 7 novembre prochain. Un entretien enregistré le 23 octobre dernier alors qu'Éric Reinhardt était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous remercier de votre fidélité et de votre écoute attentive. Rendez-vous samedi prochain donc. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.